Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lutte kurde, aujourd'hui dédié à la question de Shengal, également connue sous le nom de Sinjar en arabe. Pour parler de ce sujet, nous recevons aujourd'hui Alex de Belgique, qui est journaliste et qui a passé 6 mois en 2022 à Shengal en qualité de journaliste et qui a écrit un certain nombre d'articles sur cette thématique. Alex, bienvenue.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Alors, première question, est-ce que tu peux nous définir qui sont les Yézidis ?
Alors, Yézidi, c'est un peuple et une religion très ancien. On dit souvent que c'est le peuple qui est à l'origine de la culture kurde. Et c'est une religion monothéiste où on vénère Dieu et ses anges, dont l'ange principal qui s'appelle Melek Taos et qui est vu comme le représentant de Dieu sur Terre. La langue des Yézidis, c'est Kurmanji, et c'est une culture qui est très liée à la nature. Donc beaucoup de fêtes religieuses ont une relation avec des événements dans la nature, comme le solstice d'été, voilà, des événements caractéristiques sur une année. Les lieux sacrés, les temples, se retrouvent souvent très reculés dans la nature, dans le but de... Quand on y va pour prier, c'est pour aussi se déconnecter de tous les stress de la ville et du quotidien et se reconnecter avec les choses essentielles de la vie. La région Shengal est considérée comme une des premières régions de la terre qui a été créée par Dieu. Et donc, c'est des terres sacrées pour les Yézidis. Et c'est très proche aussi de leur temple le plus sacré qui s'appelle l'Alesh, qui se trouve dans la région de Duruk en Irak.
Alors justement, comme tu parles de l'Irak, est-ce que tu peux nous préciser ce peuple, où vit-il et quelles sont les particularités de son territoire en termes géopolitiques ?
Historiquement, c'était un peuple qui a vécu dans des régions très vastes en ce qui aujourd'hui est la Turquie, la Syrie et l'Irak. Vu qu'ils ont été, à travers l'histoire, souvent persécutés, chassés, ces régions ont rétréci. Jusqu'à 2018, il y avait une partie très importante de population yézidi à Afrin, la ville qui est depuis 2018 est occupée par la Turquie. Et il y a toujours une partie très importante qui vit en Irak, notamment à Shengal et dans les régions voisines d'Ohuk aujourd'hui, et Kurdistan irakien.
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un peuple qui est particulièrement discriminé, puisqu'il est à la fois considéré comme hérétique par un certain nombre de peuples qui ont d'autres religions, mais il est aussi considéré comme kurde, ce qui est quelque chose avec lequel ils sont pas forcément d'ailleurs tous d'accord. Mais en tout cas, la réalité, c'est que c'est un peuple qui a vécu énormément de discrimination. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet ?
Donc j'ai dit que à côté de Dieu, ils vénèrent les anges, dont cet ange Melek Taos, qui est vu pour eux comme un représentant de Dieu sur Terre, souvent représenté sous forme du paon. Mais d'autres religions interprètent ce Melek Taos comme le diable. Et sur cette base-là, on souvent dit que les Yézidis, c'est un culte du diable. Et sur cette base-là, il faut les éradiquer. Et donc, ils ont été poursuivis et massacrés sur cette base-là et vécu de nombreux génocides dans le passé. Les Yézidis se voient comme des origines des Kurdes. Voilà, on pense que la culture kurde ou les Kurdes ont des origines yézidis.
J'ai cru comprendre en lisant quelques articles et livres sur le sujet qu'une des raisons pour lesquelles ils étaient aussi particulièrement discriminés, c'est que c'est un peuple qui n'a pas forcément de tradition de l'écrit et que ça avait pu aussi parfois participer au fait qu'ils étaient stigmatisés.
Donc, ils n'ont pas un livre sacré et ils y tiennent à rester une tradition orale. Par l'observation, qui disent que les religions qui ont commencé à écrire des livres sacrés ont commencé à missionner d'autres gens, ont commencé à agresser d'autres personnes, et c'est quelque chose qu'ils veulent absolument éviter. C'est une culture qui est très ouvert et très tolérant envers d'autres cultures. Ça se voit aussi dans les prières où on prie d'abord pour le bien de 72 autres personnes avant de prier pour soi-même. Et ce fait d'être une religion orale, ça veut dire aussi que beaucoup de règles sont très souples. Donc souvent, il y a une certaine marge de manœuvre ouverte à l'interprétation. Par exemple, les prières, il n'y a pas beaucoup de, bah, pas vraiment des prières qu'on apprend par cœur, c'est plus des prières qu'on va dire par ressenti. Et ce fait aussi de se sentir proche de la nature et d'avoir des animaux sacrés, par certaines d'autres religions, ça peut être vu comme un acte hérétique arriéré.
Alors les yézidis, très souvent, les personnes qui ne les connaissaient pas précédemment en ont entendu parler pour la première fois en 2014, quand l'État islamique est venu dans leur territoire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé en 2014?
Donc en 2014, la région était officiellement sous le protectorat du gouvernement fédéral irakien, donc avec l'armée irakienne qui était stationnée. Et quand l'État, le soi-disant État islamique, s'est approché et a réussi à prendre Mossoul, l'armée irakienne s'est retirée et a laissé derrière elle un certain nombre d'armes pour que les yézidis peuvent éventuellement s'autodéfendre. Et à ce moment-là, il y a des Peshmerga, donc des forces du Kurdistan irakien, contrôlées par le KDP, qui ont pris ces positions que l'armée irakienne avait laissé vide et qui ont saisi ses armes et ont donné la promesse à la population yézidi de les protéger contre Daesh. Quand Daesh a attaqué finalement le 3 août 2014, ses forces Peshmerga, ils ont pris la fuite et ils ont laissé les yézidis toutes seules et sans les armes. Malgré ça, dans de nombreux villages, il y a eu une résistance acharnée. Pendant plusieurs heures, à beaucoup d'endroits, les gens se sont battus contre Daesh, jusqu'à la dernière balle ou jusqu'à être juste en position de ne plus pouvoir tenir face aux armes lourdes que Daesh avait mises en place. Mais ces quelques heures de combat ont quand même permis à de nombreuses personnes de s'échapper. Et il y a environ 50 000 personnes qui se sont réfugiées sur Mount Sinjar, donc c'est la montagne du Shengal. Et
juste pour être sûr de bien comprendre, précédemment, les gens vivaient plutôt dans des villages qui étaient au pied de la montagne, et au moment de l'attaque de l'État islamique, donc Daesh, les personnes sont allées sur la montagne, c'est ça?
En fait, il y a toujours eu des gens qui ont vécu sur la montagne, mais c'est surtout la politique de Saddam Hussein qui a mené à une délocalisation des populations, à les enlever de la montagne pour les faire vivre dans la plaine, donc à une distance entre 30 et 40 kilomètres de la montagne.
Peut-être préciser pour les gens qui ne connaissent pas la topologie du lieu, c'est qu'il y a une seule montagne.
C'est bien ça, ouais. Il y a une montagne qui fait environ 72 kilomètres de long et qui est entourée d'une grande plaine, une plaine très fertile qui s'appelle aussi... c'est la région du Nineva qu'on appelle souvent le panier de pain de l'Irak. Et donc, cette montagne dans l'histoire a toujours servi comme une position de défense très forte. Et c'est pour ça que les gens avaient ce réflexe de se tourner vers la montagne. Le problème maintenant d'habiter à 30-40 kilomètres de cette montagne, et en août en Irak, ça veut dire qu'on parle des températures au soleil autour de 50 degrés. Ça a déjà mené à la mort de beaucoup de personnes âgées ou des petits-enfants qui sont juste morts de faiblesse sous ce soleil brûlant. Mais ils ont quand même tenté de trouver leur survie sur la montagne parce que tous les gens qui se sont fait attraper par Daesh, c'était l'esclavage, le viol, les exécutions, toutes ces horreurs dont on en a entendu parler dans les médias. Peut-être dire à ce moment-là aussi que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore presque 3000 personnes qui sont portées disparues, dont plus que 1000 femmes qui jusqu'à aujourd'hui se trouvent quelque part dans des familles proches de Daesh. En fait.
Est-ce qu'on a un petit peu des chiffres établis ou en tout cas qui font consensus par rapport au nombre de morts, au nombre de charniers, au nombre de femmes encore disparues?
Donc, au nombre de morts, on parle entre 5 et 7 000 morts. Et on a découvert jusqu'à aujourd'hui 81 charniers, qui petit à petit, on est en train d'ouvrir parce que les familles ont envie de donner un enterrement digne à leurs membres de famille. Donc, c'est un processus qui est très long et qui est très douloureux pour les gens. Et quant aux femmes disparues, à l'époque, on parlait de 5 000 femmes disparues. Et je disais que le dernier chiffre que moi j'ai vu, c'est autour de 1 300 femmes qui sont toujours disparues.
Tu nous disais donc que les populations qui vivaient majoritairement dans la plaine ont réussi à fuir Daesh pendant que certaines personnes tenaient les positions pour tenter de contrer l'ennemi et que ces personnes ont donc fui par la montagne. Comment ça s'est passé une fois que les personnes étaient sur la montagne?
Ils étaient sur la montagne et grâce à leurs efforts d'autodéfense et aussi au soutien d'une poignée de combattants du PKK, ils ont réussi à organiser une autodéfense efficace sur des points stratégiques qui permettaient de monter à la montagne. Et donc ils ont réussi à défendre les accès et il n'y a jamais aucun combattant de Daesh qui a réussi de monter sur la montagne. Par contre, ils étaient enfermés sur la montagne. Voilà, c'était très dur. Il n'y avait pas beaucoup d'eau, il n'y avait pas beaucoup de nourriture, il n'y avait pas beaucoup d'abris. Avec l'aide de ces unités du PKK, ils ont réussi à défendre les accès à la montagne et ils ont tenu 2 3 jours avant que les premières biens ont été jetés par des avions. Et il y a eu après 3 jours, le 6 août, du renfort qui est arrivé du côté du Rojava, donc de la Syrie du nord et de l'est. Sous forme des unités de défense populaire, les YPG, et les unités de défense des femmes, les YPG, qui ont renforcé les rangs, qui ont aidé à défendre la montagne et qui ont réussi aussi avec l'aide ensuite des frappes aériennes de la coalition contre Daesh à ouvrir un corridor vers le Rojava et les gens ont pu donc s'échapper vers le Rojava. Il y a environ 15 000 personnes qui sont restées sur la montagne et qui ont dit « ça, ce sont nos terres sacrées, on va les défendre jusqu'au bout ».
Alors, un chiffre que moi j'ai souvent lu, c'est le fait qu'il s'agit du 74e génocide qui s'est abattu sur le peuple yézidi. Est-ce que c'est un chiffre dont tu as connaissance également?
Oui, c'est ce que tout le monde dit là-bas. Dans tous les cas, c'est un chiffre que les Yézidis donnent eux-mêmes. C'est un peu compliqué si on veut maintenant faire un bilan et les citer tous. Les derniers, donc le 73e, c'est ce qu'on appelle l'attentat au camion-citerne de Tel HaZer. C'est classé comme un des attentats terroristes les plus mortels au monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était lors d'une célébration très importante au printemps 2007 à Tel HaZer. Il y a un camion équipé avec des explosifs, plus 4 autres véhicules chargés d'explosifs qui se sont garés dans la foule et se sont fait exploser. Et c'est un attentat qui a causé presque 800 morts et plus que 1 500 blessés. Et certains de ces blessés n'ont jamais été retrouvés, donc sont portés disparus jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un attentat très traumatisant et qui, selon les Yézidis, compte comme un génocide. Et il n'y a jamais personne qui a revendiqué cet attentat, mais on soupçonne que c'est des groupes djihadistes, des espèces de préliminaires de Daesh.
Tu disais qu'un corridor humanitaire a pu être ouvert sur la montagne pour permettre aux personnes de quitter la montagne où il n'y avait pas suffisamment de vivres par rapport aux personnes qui s'y étaient réfugiées. Est-ce que tu peux nous dire où se sont retrouvés les Yézidis et où sont-ils maintenant?
Donc, il y a aussi beaucoup de Yézidis qui ont pris la fuite vers le Kurdistan irakien, vers Erbil, et qui jusqu'à aujourd'hui se trouvent principalement dans des camps de réfugiés. Donc, on parle de plus que 200 000 personnes qui vivent encore aujourd'hui dans des camps de réfugiés au Douro. Et puis, il y en a qui sont dispersés au monde entier, avec une communauté très importante en Allemagne et en Belgique, en d'autres pays européens, jusqu'en Australie, en Inde, il y en a aux États-Unis, au Canada, je suis pas
Est-ce qu'on
sûr.
sait quelle était la population yézidi initiale et quelle est la population yézidi actuelle autour du mont Shengal?
Ouais, donc des chiffres exacts, c'est quelque chose qu'on n'a pas non plus. On estime que autour de 500 000 personnes vivaient dans la région du Shengal avant le génocide, donc avant 2014. Et aujourd'hui, on estime quelque chose autour de 150 000. Donc c'est une grande, grande perte de population. Et ça se voit qu'il y a beaucoup de maisons qui sont vides. Et c'est lié à plusieurs faits, en fait, que les gens ne peuvent pas revenir. On a un, c'est la destruction due à la guerre. Donc, les combats actifs dans cette région ont duré presque un an. Donc, de nombreuses maisons sont détruites. Les gens qui ont pris la fuite, ils ont pris la fuite avec tout ce qu'ils savaient porter. Donc, pas grand-chose. Ils se retrouvent maintenant dans des camps de réfugiés où, pour survivre, ils acceptent des travaux extrêmement mal payés et n'ont pas l'argent pour reconstruire des maisons. Et en plus de ça, on leur met aussi des obstacles administratifs très importants. Ça prend entre 2 et 7 ans pour obtenir le permis de pouvoir revenir dans la région. Et puis, il y a d'autres facteurs. Il y a le fait que il y a aussi beaucoup de villages qui, encore aujourd'hui, sont pleins de mines. Donc, il y a des demandes de la population de leur envoyer du matériel de déminage, ce qui ne se passe pas. Classiquement, les gouvernements européens vont envoyer du matériel de déminage au Kurdistan irakien, qui ne l'utilise pas pour Shingal. Et il y a aussi, encore aujourd'hui, certaines régions, certains villages où des gens ont peur d'aller parce qu'ils disent qu'il y aura des sympathisants de Daesh, peut-être. Et donc, il y a aussi des personnes qui ont une maison, mais n'osent pas y aller, pas peur des voisins.
Est-ce que tu peux nous parler de l'accord de Shingal?
Pour comprendre cet accord de Shingal, il faut revenir un petit peu en arrière. La région a officiellement été libérée de Daesh en 2017. L'accord de Shingal, c'est un accord qui a été fait entre le gouvernement fédéral irakien à Bagdad et le gouvernement du Kurdistan irakien à Erbil et qui vise à rétablir l'administration du KDP sous Shingal, qui vise à désarmer tous les groupes armés qui se trouvent à Shingal et qui vise à installer une nouvelle unité de l'armée fédérale irakienne qui serait responsable pour la protection de Shingal. Cet accord a été fait sans les Yézidis et trouve beaucoup de résistance à Shingal, donc jusqu'à aujourd'hui n'a pas été implanté. Il est soutenu également par la Turquie et la mission et par les États-Unis. Je vais m'expliquer un peu pour comprendre d'où sort cet accord de Shingal et pourquoi il y a une telle résistance. Avant 2014, la région était administrée par le Kurdistan irakien, donc principalement par les KDP, qui ensuite, à 2014, a pris la fuite. Cette fuite qui, selon des sources, on parle entre 2 000 et 12 000 combattants des Peshmerga qui auront pris la fuite entre, au début, un peu plus que 1 000 combattants de Daesh. Cette fuite est perçue comme une grande trahison et les Yézidis donnent une responsabilité au KDP pour le génocide. Ensuite, l'autodéfense de la montagne de Shingal et la gestion des vivres et des abris sur la montagne a donné comme début une auto-organisation des Yézidis, qu'on appelle, au début c'était un conseil provisoire qui gérait donc l'autodéfense, qui gérait la santé, la distribution de l'eau, la construction des abris, et qui par la suite s'est plus en plus formalisé et a mené naissance à de nombreuses structures dont on va parler par la suite. Et puis en 2017, la région a été officiellement libérée. Et à ce moment-là, le KDP et les forces Peshmerga ont tenté de revenir s'installer dans la région. Donc dire, voilà, c'est fini la lutte contre Daesh, maintenant on reprend le contrôle et on remet les Peshmerga en place. Et la population de Shingal, plus toutes les structures d'autodéfense et d'autodétermination qui ont été créées, ont résisté contre cette tentative. Donc plusieurs fois, il y a eu trois grandes tentatives de revenir. Celle de 2017 est particulièrement importante parce qu'elle était violente. Le KDP qui a utilisé, qui a tenté de s'implanter par la force en utilisant des nouvelles armes qui ont été fournies par l'Allemagne pour lutter contre Daesh. Et finalement, ils ont été utilisés pour lutter contre des yézidis. À ce moment-là, il y avait encore des forces du PKK qui étaient présentes. Et donc, il y avait la population, pas des actions de blocage, plus des forces d'autodéfense, plus les forces du PKK qui ont empêché le KDP de revenir. Il faut savoir aussi que dans le contexte de la guerre contre Daesh, il y a d'autres milices qui ont été créées. Donc, il y a très important l'appel de former des unités de défense populaire, les PMU en anglais, ou en arabe, connu sous le nom de Hashd al-Shaabi. Donc ça, c'est des milices qui sont souvent soutenues par l'Iran. Et dont il y en a plusieurs qui se retrouvent à Shingal aussi, qui à Shingal n'ont pas beaucoup de liens avec l'Iran, qui sont formés par des combattants yézidis locaux, mais qui ont ce label à Hashd al-Shaabi. La résistance de la population et des unités d'autodéfense, des résistances du Shingal, plus la présence de ces milices à Shingal, ça a mené à cette idée de former un accord qui dit on va désarmer tout le monde et on va mettre une unité centrale contrôlée par le gouvernement en place. Sauf que l'expérience de 2014 est encore très jeune. Et donc les gens disent non, on ne peut pas faire confiance à une structure lointaine de nous protéger. On doit se protéger nous-mêmes. On fait confiance à nos unités d'autodéfense qui nous ont défendus contre Daesh. On ne fait pas confiance à un soldat qui vient de quelque part. Dans le premier cas d'une attaque, il va peut-être reprendre la fuite et nous laisser toutes seules et on va revivre un autre massacre. C'est une revendication très centrale aujourd'hui des yézidis à Shingal de rouvrir des négociations pour négocier un véritable accord de Shingal, en fait, de dire ok, comment on peut résoudre cette situation conflictuelle avec un accord qui quelque part arrange tout le monde et surtout garantit la sécurité et l'autodétermination, la culture des yézidis sur place.
Donc si j'ai bien compris, cet accord de Shingal qui a été scellé en 2020, il s'est fait sans les populations locales. Et pour l'instant, cet accord n'a pas réussi à être appliqué puisque les populations locales qui n'ont pas été concertées ont réussi à faire front contre cet accord qui s'est fait sans elles.
C'est bien ça. C'est très paradoxal. Cet accord officiellement vise à amener la paix dans la région. Et en essayant de l'implanter, on amène la guerre quelque part. Sans cette tentative d'absolument vouloir désarmer les Yébéché, Yéjéché et les autres milices, qui eux se voient dans une optique d'autodéfense du Shingal et qui aujourd'hui font officiellement partie des forces de défense de l'Irak. Donc, qui s'engagent aussi à défendre l'Irak en cas d'une agression par l'extérieur. Donc, si on les laisserait tranquilles, il n'y aura pas de problème, en fait. C'est le fait d'amener massivement l'armée irakienne dans le territoire et de tenter d'occuper des positions des Yébéché et Yéjéché, de tenter de forcer à se soumettre. C'est ça qui amène le conflit, en fait. Et en addition à ça, depuis 2017 aussi, la Turquie est présente sur le terrain avec des drones et parfois avec des avions, mène souvent des frappes aériennes aussi contre des structures de l'administration autonome.
Tu as à plusieurs reprises évoqué le fait qu'il y a une autodéfense qui s'est mise en place, mais la région s'est pas contentée de mettre en place une autodéfense. Ce qui s'est réellement développé, c'est toute une autonomie démocratique. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais. Donc, comme j'ai dit, ça a commencé déjà en 2014 sur la montagne. quand il y avait la nécessité de alors construire des campements, distribuer le peu d'eau qu'il y avait, distribuer l'alimentation, gérer la santé. Et donc ça s'est formalisé en sous forme de du conseil démocratique d'administration autonome du Shingal. Et donc comment ça fonctionne? On a une assemblée dans chaque village. Et puis, il y a des délégués qui vont être envoyés à une assemblée de la région. Et il y a un comité exécutif qui va être formé pour gérer les décisions qu'on prend. Là, ça a l'air très abstrait comme ça. Mais concrètement, il y a après des commissions thématiques pour chaque sujet important qui doit être géré. Donc, il y a donc en premier lieu la défense, qui a mené aussi à la création des structures des Yébéché et Yéjéché. Il y a la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme sous forme des Asaïch et Zitran. Il y a très important des commissions pour la santé. Il y a également des commissions de femmes qui sont existantes dans chaque conseil et qui ont un droit de veto. À savoir aussi que chaque structure est doublée par une structure exclusivement de femmes. Puis il y a des commissions pour l'éducation, pour la culture, pour tout ce qui est travaux communaux, c'est-à-dire construire des routes, distribuer l'eau, et des commissions pour plus des questions économiques, genre former des coopératives, gérer des questions économiques du coin, faire des programmes de reforestation. Il y a également des commissions de la jeunesse et un mouvement de la jeunesse qui est aussi toujours présent dans les assemblées, dans les villages, comme aussi des commissions médiatiques et aussi l'organisation des familles, des ce qu'ils appellent des shéhites, donc souvent on traduit ça par martyrs, des personnes qui ont donné leur vie pour l'autodéfense.
Est-ce que tu peux nous dire quels sont les enjeux actuels par rapport à Shingal?
Oui, donc Shingal se retrouve dans un endroit qui est d'une grande importance géopolitique. On se trouve quasiment à la frontière entre la Syrie, l'Irak et la Turquie. C'est une position de défense très importante. Avec le contrôle sur Shingal, on peut contrôler la région la plus fertile de l'Irak. On peut aussi, on se retrouve aussi sur le chemin entre la Turquie et des régions très riches en pétrole de Mossoul et Kirkuk. Et aujourd'hui aussi, dans le contexte des conflits autour des routes de transport, notamment maintenant on parle des pipelines de la Russie, on parle des conflits autour du canal de Suez, il y a aussi des projets géopolitiques de construire des nouveaux chemins de transport entre l'Asie et l'Europe qui passeront par cette région-là. Donc à citer ici, il y a la nouvelle route de la soie, donc ça c'est un projet chinois, et aussi New Belt Road Initiative, donc c'est un projet turco-irakien éventuellement, qui vise aussi à se développer en une route de transport qui pourrait compéter avec le canal de Suez et qui passe donc par cette région. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses forces qui tentent à mettre la main sur la région de Shingal et le nord de l'Irak, mis à part voilà, le conflit qui était déjà en place et qui est plus de nature locale entre le Kurdistan irakien, le gouvernement fédéral et les Yézidis qui ont envie quand même de vivre leur, selon leurs idées et leur culture.
Alors pour préparer cet épisode, j'ai lu un livre que je recommande, hein, qui pour l'instant n'existe qu'en italien, qui s'appelle La montagne seule, donc en italien La montagna sola, dit de Rojbin Beritan et Chiara Cruciati. Et je voudrais te lire un tout petit extrait qui dit « C'est cela que Shingal nous enseigne, le modèle de la révolution du Rojava n'est pas un modèle unique. Le confédéralisme démocratique est praticable par des religions et des ethnies diverses. Il est adaptable aux cultures qui vivent au Moyen-Orient. » Est-ce que tu penses que c'est une des raisons pour lesquelles Shingal est autant attaqué? C'est parce que, comme le Rojava, il revêt un certain symbolisme de capacité des peuples à l'autogestion, à l'ouverture vers des ethnies diverses et à la capacité de vivre ensemble en dehors de l'État-nation.
Oui, c'est clairement une des raisons. Suite à ce contact avec le PKK, ces idées du confédéralisme démocratique ont pris pied et ont enthousiasmé des gens à Shingal. Et c'est sur cette base-là que la Turquie justifie toutes ces attaques et que la Turquie vise à aussi à reprendre le contrôle, à désarmer les unités d'autodéfense. Ils disent que les YBŞ et YJŞ soient des terroristes qui menacent la sécurité de la Turquie, alors que eux, ils ont jamais fait autre chose que défendre Shingal. Et on voit ça très fort avec la présence et des assassinats par drone. Donc c'est des drones turcs qui se trouvent en permanence dans l'espace aérien au-dessus de Shingal. À savoir que cet espace aérien est toujours jusqu'à aujourd'hui contrôlé par les États-Unis, qui donnent donc forcément feu vert à chaque opération dans cet espace aérien. Et la présence de ces drones et les assassinats qui peuvent avoir lieu à tout moment et qui visent très souvent des représentants de l'administration autonome ou des forces d'autodéfense. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ce que pour moi est la définition du terreur, en fait. C'est quand on quitte la maison, on regarde constamment le ciel, on évalue est-ce que je dois vraiment faire ce déplacement que je dois faire ou est-ce que je m'expose inutilement à un risque d'être vu ou attaqué par un drone. Très fort comme impact était par exemple en 2021, en août, le bombardement de l'hôpital de Sikenye et qui a mené au fait que de nombreuses personnes ont peur d'aller à l'hôpital. J'ai parlé avec des médecins sur place qui disaient qu'avant cette attaque, ils avaient entre 4000 et 5000 patients par jour et après les attaques, à peine 1500 patients par jour. Les gens préfèrent de rester malades chez eux plutôt que d'aller à l'hôpital et de s'exposer à nouveau à un risque de se faire bombarder. Des problèmes de santé principaux sont liés à des problèmes psychologiques post-traumatiques et de stress, des problèmes de digestion qui sont très souvent liés à cette présence des drones. Donc, sous couvert de vouloir faire la guerre au terrorisme, comme le déclare la Turquie, selon moi, ils sont exactement en train de faire ça, de terroriser toute une population sous prétexte de chasser, on ne sait pas vraiment qui, en fait. Parce que les gens qui sont assassinés, souvent, c'est des gens qui s'engagent dans l'administration autonome, dans des structures des IDI sur place et qui n'ont jamais affiché aucune ambition de vouloir envahir la Turquie ou quelque chose comme ça.
Si on souhaite soutenir la population yézidi, quel est à ton sens ce qu'on peut mettre en œuvre?
Donc, une première chose qui est importante, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens m'ont dit sur place aussi, c'est déjà de parler de leur histoire, parce que ça se passe dans le secret. Les journalistes ne sont souvent pas les bienvenus en Irak, et encore moins dans cette région-là. De nombreux journalistes se sont fait arrêter aussi par des forces armées irakiennes. Voilà, parler de leur histoire, parler de ce conflit, c'est déjà une chose, donc briser le silence médiatique. Et une deuxième chose, c'est après d'augmenter une pression diplomatique pour répondre à leurs revendications, c'est-à-dire une revendication très importante, c'est cette renégociation de l'accord de Shingal. Mais il y en a d'autres aussi, donc il y a, par exemple, une demande de reconnaître au niveau international le génocide de 2014 en tant que tel et de persécuter les responsables de ce génocide, c'est-à-dire les acteurs de Daesh, mais aussi ceux qui l'ont permis d'avoir lieu, c'est-à-dire donc le gouvernement du Kurdistan irakien et le gouvernement turc. Il y a des demandes d'accepter comme partenaire de négociation les structures de l'administration autonome, donc déjà les inviter à la table des négociations et d'accepter que les yézidis ont envie de former leurs propres unités de défense à qui ils font confiance et pas des gens qui viennent d'ailleurs. Et évidemment, de monter la pression politique pour que ces attaques s'arrêtent, quoi, que les drones arrêtent de survoler la région et d'attaquer n'importe quand, pour que les attaques qui viennent de l'armée irakienne s'arrêtent. Donc qu'on trouve une solution politique pour cette région-là. Donc pour ça, on peut interpeller des politiciennes, politiciens, on peut voilà.
Une dernière question pour les personnes qui souhaitent en savoir davantage, qui souhaitent mieux comprendre la situation. Est-ce que tu peux nous donner des références bibliographiques, soit des films, des documentaires, des revues, des livres, que tu peux conseiller sur le sujet?
Il y a des médias yézidis et des médias kurdes. Pour l'instant, c'est surtout disponible en kurmanji, en allemand et en anglais. Donc à citer, donc il y a Shira TV. Donc ça, c'est une télévision yézidi qui produit directement depuis Schengal et aussi depuis l'Allemagne. Il y a des revues comme le Kurdistan Report, mais qui est en allemand. Et il y a des médias kurdes comme ANF, Rojinfo, Kurdistan au féminin, mais qui sont pas spécialement focalisés sur Schengal. Ils sont plus larges. Il y a aussi le site de Serhildan, par exemple. C'est un réseau de solidarité et d'information francophone.
Peut-être qu'on peut citer, hein, même si effectivement c'est pas très détaillé, mais en tout cas c'est grand public, la BD de Zéro Calcaré qui s'appelle No Sleep Until Schengal. Moi je l'ai déjà cité, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup apprécié, donc je le recite, donc de Rojbin Beritan et Chiara Cruciati, La Montagna Sola. Voilà. Et puis après, il y a quand même beaucoup de ressources aussi qu'on peut retrouver sur Internet en ligne pour les personnes qui souhaitent faire des recherches. Et effectivement, je confirme que Serhildan, c'est une très bonne ressource bibliographique sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site Internet.
En termes de bande dessinée, vu que tu en parlais, il y en a une très bonne aussi sur le génocide en 2014 qui s'appelle Schengal. Et sinon, à citer quand même aussi, si on s'intéresse à la culture, à ces histoires, il y a quand même Nadia Murad à citer, qui a quand même un prix Nobel de littérature, qui raconte surtout l'histoire du génocide, mais qui ne parle pas de l'administration autonome.
Donc j'ai retrouvé effectivement la BD, donc c'est Schengal, de Tore Rohrbeck et Mikkel Sommer. Est-ce que pour finir, tu peux nous dire un dernier mot qui te semble important?
Moi j'aimerais bien finir avec une citation de Dijwa Fekir, ou aussi connu sous le nom Merwan Bedel, qui a été assassiné par drone en décembre 2021, et qui nous dit que la plus grande valeur que nous avons, c'est d'être humain. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas échanger par de l'or. Développer la vie, notre langue, nos pensées, notre conscience, c'est les biens les plus précieux.
Bon, on va finir sur ce mot de fin très touchant. Merci beaucoup, Alex.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast.